Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, l'inconscient européen. Ce soir, notre deuxième rencontre autour du terrorisme avec Geneviève Morel, psychanalyste à Paris et à Lille, rédactrice en chef de Savoir et Clinique. L'inconscient européen, ce sont à la fois les spectres qui hantent l'Europe et la manière dont l'inconscient permet d'expliquer ces retours dans l'inconscient européen. L'inconscient, c'est-à-dire les savoirs de l'inconscient, la psychanalyse, mais peut-être aussi l'art, l'histoire, toutes les disciplines qui creusent l'inconscient. Ce soir, notre deuxième rencontre donc avec Geneviève Morel, qui est psychanalyste. Bonsoir Geneviève Morel.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. J'ai parlé de l'inconscient européen, c'est une expression tout à fait générale. Vous venez de publier un livre intitulé « Terroristes » avec un pluriel qui indique qu'il s'agit d'individus. Et vous parlez des raisons intimes d'un fléau global. Donc au fond, il s'agit d'individus et d'une question qui se répand partout. Pour vous, il n'y a pas de spécificité de l'Europe, j'imagine, dans cette question du terrorisme, mais peut-être malgré tout y en a-t-il une, ou en tout cas on rejoint des questions qui hantent l'Europe en tant que telle. Je voulais vous demander d'abord, Geneviève Morel, vous êtes psychanalyste, vous avez travaillé sur divers sujets, qu'est-ce qui vous a amené à cette question des terroristes? Je ne dis pas du terrorisme, mais justement des terroristes.
Eh bien en fait, j'ai commencé à travailler avant les attentats en fait. C'est quelque chose. Bon, disons, j'ai déjà travaillé sur le suicide et sur le crime, donc certainement que cette question me travaillait déjà. Mm-hmm. Mais j'étais en 2014 avec mon mari Franz Kaltenbeck, qui est récemment décédé. J'étais
avec lequel vous travaillez, vous avez beaucoup travaillé, formé un groupe de psychanalystes,
qui lui-même a travaillé longtemps en prison. Voilà. Donc on était ensemble à Berlin pour un séminaire de psychanalyse en 2014, fin 2014. Et là, on a vu une exposition sur l'histoire de la fraction armée rouge au musée de l'histoire allemande à Berlin. Mmh. Et dans cette exposition, on voyait des tas d'objets. Il y avait la moto rouge qui avait permis de tuer le professeur Bubak. Il y avait les affiches Still Wanted des terroristes avec des sinistres croix rouges marquées sur ceux qui étaient déjà morts à l'époque de l'affiche. Il y avait beaucoup sur l'histoire des victimes et puis il n'y avait rien sur les terroristes. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait eu d'ailleurs une controverse au sujet de cette exposition où les Allemands s'étaient dit 30 ou 40 ans après, est-ce qu'on va encore se taire sur les terroristes ou pas?
La controverse, Geneviève Morel, oui. La controverse portait sur quoi exactement?
Sur la controverse portait sur le fait que
le terrorisme dans un musée ou qu'il soit absent du musée?
Qu'il soit absent de l'exposition, c'est-à-dire qu'au fond, alors ce qu'il y avait juste, j'ai remarqué, il y avait peut-être d'autres petites choses, mais il y avait une vidéo montrant le jeune Bader en train de faire l'idiot dans le théâtre de rue, de faire s'amuser dans une manifestation comme ça. Et il avait son visage assez éclairé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Voilà. Mmh. Et la controverse portait en effet dans les journaux sur le fait qu'il y aurait un tabou sur les bourreaux. Et au fond, il y avait des historiens qui disaient que bon, maintenant, après tout ce que Raoul Hilberg a fait en 1985, son livre important sur
l'extermination des Juifs d'Europe,
qui travaille sur la question des bourreaux, il était temps aussi de s'intéresser aux terroristes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup frappé, et la controverse, et ce jeune visage. Mm-hmm. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher des autobiographies de terroristes. Alors à l'époque, j'avais rencontré déjà un djihadiste.
Est-ce que ça vous a frappé déjà? Oui, justement, vous rejoignez déjà la question. Est-ce que ça vous a frappé tout de suite en tant que psychanalyste? C'est-à-dire de chercher les raisons ou les faisceaux de choses qui a pu conduire cet individu-là, Andreas Bader à l'époque, donc fraction armée rouge dans les années 70 en Europe. Est-ce que c'est déjà en tant que psychanalyste, avec une interrogation psychanalytique dès le départ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui, puisque bon, c'est une question qu'on se pose aussi par rapport à d'autres personnes. Après tout, pourquoi ils font quelque chose? Quelles sont les raisons d'un acte? C'est une question de psychanalyste, évidemment, entre autres.
Entre autres, c'est aussi une question de sociologue, de philosophe, d'être humain en général.
Voilà.
Et la psychanalyse aide les humains à se comprendre eux-mêmes,
voilà,
déjà.
En tout cas, c'est sûr que pour un psychanalyste, cette question se posait. Et donc, je n'avais pas d'autre moyen, au fond, de l'appréhender. puisque bon, c'était fin 2014, et puis 15 jours après, il y avait l'attentat de Charlie Hebdo et celui de l'hypercacher. J'avais pas d'autre façon de l'appréhender que des autobiographies, dans la mesure où, si vous voulez, tous les entretiens qui existent, et qui sont souvent fort intéressants d'ailleurs, faits par des journalistes, par exemple, ou des sociologues, ne posent pas exactement les mêmes ce genre de questions. Voilà, ils vont pas s'intéresser à ce style de questions. En revanche, j'ai vu ça, justement, j'ai commencé par l'autobiographie de Anna Laura Braghetti, qui était donc la seule femme du commando qui a séquestré et tué...
Les brigades rouges italiennes, enfin...
Aldo Moro, oui, voilà, brigade rouge italienne. C'était pas la seule femme des brigades
dans
rouges.
Dans les mêmes années 70, toujours en...
Plus tard.
Plus tard, enfin, début des années 80. Oui,
voilà, 78, Aldo Moro, 78, son meurtre, ouais. Son assassinat, plutôt. Et donc... Donc je suis tombée sur cette autobiographie dans une recherche comme ça sur Google, si vous voulez, bon voilà, qui était justement traduite en français, et donc ça m'a beaucoup intéressée parce que ça confortait mon idée sur l'autobiographie des criminels aussi, c'est-à-dire que dans une autobiographie, le sujet, dans ses propres mots, va dire des choses qu'il ne calcule pas forcément d'ailleurs, sur son passé, sur son enfance, sur son adolescence. Et au fond, pour un psychanalyste, bien, c'est ce qu'on appelle la psychanalyse appliquée, c'est-à-dire on ne travaille pas avec un individu vivant à ce moment-là en face de soi, mais on travaille sur un texte. Et au fond, par exemple, Lacan disait que Freud ne s'était jamais senti aussi à l'aise qu'en travaillant sur les écrits du président Schreber. Et donc,
Oui, Freud a écrit sur beaucoup de textes. Écrit et pas seulement sur des paroles de patients en séance, voilà. Si j'ose dire.
Mais c'est ça qu'on appelle la psychanalyse appliquée.
Mais le point commun, finalement, pour vous, en tant que psychanalyste, c'est qu'il faut entendre ce que le sujet a à dire, le
lui-même.
Sujet lui-même.
Voilà, c'est exactement ça.
Et donc vous vous servez de l'autobiographie. Dans le livre Terroriste, il y a aussi deux terroristes, on va les appeler comme ça, que vous avez rencontrés et un peu suivis personnellement dans une prison.
C'était des djihadistes.
Des djihadistes qui avaient. Vous ne les appelleriez pas forcément des terroristes, mais disons qu'ils sont dans cette logique-là.
Qui sont inculpés pour des entreprises terroristes en groupe, ou bien pour apologie du terrorisme, enfin quelque chose qui avait à voir avec un engagement djihadiste, en tout cas fort. Voilà.
Et pour vous, l'autobiographie, Geneviève Morel, puisqu'on commence par là, avant d'entrer dans la découverte, enfin, ce que vous donne à penser ces textes et ces paroles des terroristes eux-mêmes, l'autobiographie, c'est fait partie un petit peu déjà de la question, c'est-à-dire d'une pulsion à parler. Ils ont quelque chose à dire, finalement. Il y a quelque chose, vous rencontrez dans l'autobiographie aussi déjà de l'intuition qu'il y a un sens dans leurs actes, qu'il y a une racine individuelle, intime, inconsciente, personnelle.
En fait, si vous voulez, moi je me suis intéressée à des autobiographies de différentes époques. Je pense qu'elles n'ont pas été écrites de la même façon suivant les époques et les contextes. Hein, puisque bon, j'ai parlé d'anarchistes du début du XXe siècle qui sont d'ailleurs européens. Français, oui. Italien, anglais, voilà.
Oui, vous commencez par Émile Henry,
qui est très connu.
Moi-même, j'avais pas connaissance. Je pense que les lecteurs vont être fascinés. Pourtant, c'est une période sur laquelle j'ai beaucoup travaillé historiquement.
Premier attentat de masse.
Le début du 19e siècle. Voilà, fin du 19e siècle, la première bombe dans un café parisien. Vous dites que c'est
café
même
Terminus.
Pas si loin que ça, finalement, des cafés de novembre 2015. Enfin, c'est des gestes assez proches.
Oui, certainement, oui.
Une bombe dans un café visant à tuer des innocents d'une manière qui vise la société dans son ensemble.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça sortait déjà de ce qu'on appelait la propagande par le fait à l'époque, donc qui était plutôt au départ visé faire des actes violents, mais qui avait une portée symbolique. Comme par exemple, je serais Charlie Hebdo, on pourrait considérer que c'est une sorte de propagande par le fait. Donc c'était viser des personnes ou des lieux qui avaient une portée symbolique, ce qu'a d'abord fait Émile Henry avant de faire cet attentat.
Voilà. En fait, il est peut-être très connu, mais moi-même je le connaissais pas, et il est très frappant en lisant votre livre de voir une sorte de structure commune malgré tout sur toute cette histoire un peu longue, en tout cas tout le XXe siècle que vous prenez, une structure commune quand même que vous cherchez à déceler à travers ces cas et ces paroles individuelles.
Alors moi, j'ai choisi donc des autobiographies de différentes époques. C'est pas du tout un travail encyclopédique, c'est-à-dire j'en ai lu beaucoup plus que ce que j'ai étudié ici dans ce livre. Mais je les ai choisis quand même pour des raisons, j'ai choisi certaines, enfin, j'ai choisi celle où on parlait, où c'était pas entièrement de la langue de bois. Parce que, par exemple, parmi les Brigades Rouges, oui. il y a beaucoup, beaucoup d'autobiographies qui sont en langue de bois. Et donc, j'ai choisi des personnes qui parlaient d'elles-mêmes. Alors oui, tout à l'heure, on disait quel est le contexte de ces autobiographies. Il est certain qu'il y a eu un changement de la société très important par rapport à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le musée allemand, où il y avait une sorte de refus bon, de savoir ce qu'étaient les terroristes.
De refouler, hein, comment...
Oui, enfin de refus.
De refus.
De refus. Eh bien, ça
dit.
N'était pas vrai.
Je ne suis
vrai.
Pas psychanalyste, c'est moi qui l'ai dit. Geneviève Morel, rassurez-vous.
Non, j'ai le droit d'en parler aussi, du refoulé. Mais pour les anarchistes au début du XXe siècle, ce qu'il y a de certain, c'est que la société n'avait pas du tout l'attitude de cette attitude-là. Au contraire, il y avait vraiment l'idée que ces personnes savaient quelque chose et qu'il était précieux pour la société de savoir pourquoi elles commettaient ces actes. Mmh. Donc, on avait à l'époque...
Vous voulez dire la société s'intéressait aux anarchistes. C'était une énigme, mais
elle
cherchait
à l'éclairer. Oui, aux anarchistes et en particulier aux anarchistes criminels, ceux qui commettaient des... puisqu'il y a eu toute une épidémie à l'époque.
Une vague d'attentats d'anarchistes.
Une vague d'attentats avec Ravachol, Vaillant... Émile Henry, Caserio qui a tué Sadi Carnot, etc., etc. Donc il y en a eu toute une série en très peu de temps, en deux ans, l'espace de 92-94. Et donc à l'époque, eh bien, les directeurs de prison, les psychiatres qui s'occupaient...
C'est la naissance de la criminologie aussi
Elle était déjà née, enfin, ouais. un peu enfin, avant, mais disons...
On est dans l'ère de la criminologie.
On est dans l'ère où tout le monde s'intéresse à ça, et où tout le monde, par exemple, l'assassin de Sissi dont je parle, Luigi Lucchini, qui était auquel on n'a pas coupé la tête parce que c'était à Genève, il n'y avait pas la peine de mort. Le psychiatre Emmanuel Régis qui travaillait à Bordeaux venait avec son collègue suisse, le docteur Ladame, pas enregistrer, mais prendre en note tout ce qu'avait à dire Luigi Lucchini sur son crime, etc. Et même chose, Émile Henry, le directeur de la prison, lui donne un cahier, lui dit, bon, il allait passer à l'échafaud, enfin aux assises, et puis à l'échafaud très très vite, il n'y avait pas beaucoup d'attente à ce moment-là, lui dit, écrivez pourquoi vous avez fait ça, quoi, au fond. Et donc il y avait une attente de la société, un désir de savoir ce qu'ils avaient dans la tête. Voilà.
Donc, ce que vous venez de dire est très important. Geneviève Morel, vous dites qu'il y a une variation de contexte, non seulement dans, évidemment, l'histoire sociale en général, l'anarchisme, c'est pas exactement le djihadisme, évidemment, mais plutôt dans l'attitude de la société vis-à-vis du terrorisme lui-même. Dans ce musée à Berlin, en 2014, au fond, on en sait moins, on veut moins savoir, on refoule plus... que en 1894 dans les mêmes villes d'Europe.
Ouais.
Et là, ce que vous essayez de faire, c'est de retrouver ce désir de savoir. Et encore plus, peut-être maintenant, vous croyez que votre attitude de recherche, de comprendre finalement, de savoir, d'expliquer et aussi de résoudre, parce que vous dites que ça a des effets pour les solutions, votre attitude, pour vous, est encore marginale. Il y a plutôt un refus de savoir.
Oui, je pense qu'il y a un refus de savoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études sociologiques, mais il y a très peu, enfin, le fait qu'on puisse s'intéresser à autre chose que les statistiques sur d'où provient cette population, leur origine, enfin bon, tout ce qu'on voit partout, ça gêne les gens, quoi. Finalement, il y a quelque chose, il y a une gêne. Une gêne, on trouve que c'est un sujet... Quelqu'un m'a dit que c'est un sujet répulsif.
Cette gêne, vous l'expliquez comment, Geneviève Morel? Est-ce que c'est l'idée, au fond, on ne veut pas savoir les motivations profondes de ces individus, on veut juste condamner, ce qui est d'ailleurs compatible, évidemment, et on entre dans un trouble, ou bien est-ce que c'est pour des raisons politiques aussi, vous pensez
Je sais pas, il y avait un premier ministre de l'époque qui avait dit...
Expliquer, c'est déjà excusé.
C'est déjà excusé, donc il y a peut-être ça, il y a la peur de la contagion, peut-être, enfin je sais pas... Je pense aussi à un désir de ne pas savoir aussi, ça existe, si vous voulez. Je pense qu'il faut surmonter quelque chose pour... c'est un peu effectivement répulsif, peut-être, de s'intéresser à ça autrement que pour des raisons de justice.
En fait. C'est répulsif, mais en fait, en lisant votre livre, on ressent très très fortement, au contraire, un soulagement presque, c'est-à-dire un accès à un sens, et puis aussi une individualisation qui permet de ne pas généraliser, justement. Et vous avez dit quelque chose de très important, à mon avis, quand vous avez dit « vous n'avez pas retenu les autobiographies langue de bois ». Alors ça peut paraître un bon réflexe, évidemment, parce qu'elles se ressemblent toutes, et puis vous cherchez les raisons individuelles. On pourrait dire que certains sociologues ou théoriciens de sciences politiques, spécialistes de sciences politiques, vont justement chercher la langue de bois, c'est-à-dire expliquer l'acte par, justement, le passage à la langue de bois, l'idéologie, disons.
Oui.
Est-ce que vous refusez un des gestes théoriques, enfin des choix que vous faites dans votre livre, c'est de dire on ne peut pas expliquer ces actes uniquement par le discours qui les accompagne en général, l'idéologie. Et vous sortez de ces controverses-là, parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus, et vous dites justement, cherchons plutôt la motivation individuelle, la greffe de l'idéologie voilà. et de l'histoire individuelle.
Voilà, c'est-à-dire l'idéologie compte, évidemment. Elle compte quand même. Et d'ailleurs, on voit bien que dans ces différents mouvements, c'est pas la même.
Il faut toujours voilà. une idéologie quand même pour être terroriste.
Oh ben, je pense, oui. Oui, il y a bien sûr le problème des libérations nationales, mais ça fait aussi partie de
l'idéologie. Quelle est la fonction de l'idéologie, avant qu'on vienne aux mécanismes individuels? Est-ce qu'elle lève des inhibitions sociales? Elle permet de passer à l'acte?
Ben, moi, mon idée, c'est qu'il fallait différencier, dans mon livre, j'ai différencié le moment d'entrée dans l'engagement terroriste et les raisons intimes. Ce que j'ai appelé les raisons intimes sont des événements, ce que j'appelais des événements intimes, en fait.
Ça, c'est le cœur de votre thèse.
Voilà. Et comment les deux s'accrochaient. C'est-à-dire, l'événement intime, c'est ce qui va motiver pour moi la décision, en fond. Voilà. C'est quelque chose qui est là, qui ne va pas forcément donner un terroriste. Hein. Ça dépend. Donc, il y a une contingence après d'une rencontre. En général, souvent, c'est quelqu'un ou un groupe. Enfin, en tout cas, c'est plutôt charnel, même si Internet a joué beaucoup un rôle important là, pour le djihadisme, mais il y avait aussi quand même des rencontres personnelles. Et donc, au fond, le fait de présenter les personnes comme étant passives par rapport à l'idéologie est un peu une erreur, c'est-à-dire qu'on est interpellé par l'idéologie à la condition que quelque chose chez soi réponde. Voilà.
Ça fait écho, il y a quelque chose dans l'individu voilà. qui est prêt à répondre à cet appel djihadiste, mais en même temps, il faut quand même, djihadiste ou autre, hein, puisque vous faites l'histoire de différents types d'appels terroristes, on pourrait dire, mais il faut quand même cette rencontre, il faut les deux éléments.
Oui, il faut les deux éléments, mais bien sûr. Par exemple, si on prend les exemples qu'on voit, ce sont des images violentes, des fantasmes, même des films vus, enfin les événements intimes dont je parle, et au fond, il vous aurait très bien pu ne rien donner. On n'est pas prospectif, si vous voulez. Mais par contre, il faut que quand l'idéologie vient du dehors, parmi tous les individus qui sont dans les mêmes situations sociologiques qu'elle harponne, eh bien, très peu vont répondre. Et ceux qui vont répondre, ils vont répondre d'une manière active. Ils ne vont pas répondre d'une manière passive. C'est-à-dire qu'ils vont amener quelque chose, s'incorporer cette idéologie et puis devenir eux-mêmes des acteurs.
Voilà, et ce que vous dites, c'est que si on veut répondre à nous-mêmes à cette réponse des terroristes à cet appel, il faut comprendre ces deux éléments. On n'y répondra jamais seulement en travaillant sur l'idéologie, en essayant d'enlever l'idéologie d'un cerveau ou d'un esprit, comme on dit qu'on déradicalise, comme si on enlevait une racine, comme si on jardinait dans un cerveau.
Il faut toujours aussi
répondre aux prédisposition à cette sorte de nœud subjectif.
Pour y répondre, il faut que la personne elle-même s'y mette, parce qu'on ne peut pas le faire de l'extérieur complètement. Il faut quand même que le sujet qui a commis ces actes puisse revenir sur ses raisons intimes qui, à un moment donné, ont fait qu'il a répondu présent à l'idéologie.
Alors, on va donner quelques exemples dans un moment, entrer dans un ou deux des cas que vous suivez, au sens où certains, vous les suivez cliniquement. Votre livre se décrit lui-même comme une clinique du terrorisme, c'est-à-dire une approche des cas individuels. C'est ce qu'il faut entendre par clinique. Il y en a certains que vous avez suivis personnellement, d'autres que vous suivez à travers leur histoire individuelle. Mais il y a encore un point peut-être général qu'il faut creuser avant d'en venir aux exemples, et que vous avez évoqué en passant, c'est cette question des images. Vous insistez très fortement sur le fait que le nœud intime qui répond ensuite au discours idéologique, mais qui y répond activement, c'est toujours l'expérience d'une image violente.
Oh, pas toujours.
Enfin, j'ai l'impression quand même que vous insistez beaucoup sur l'image par opposition, disons, à une sorte de croyance ou de d'abstraction, de discours, de théorie, disons.
Enfin, disons que, au fond, ces événements intimes que j'ai trouvés dans chacun des cas que je décris dans ce livre, que ce soit des autobiographies ou des personnes que j'ai rencontrées dans un contexte hospitalier, enfin des personnes détenues que j'ai rencontrées dans un
hospitalo-carcéral, disons, enfin de prison.
Ouais, c'est compliqué, voilà, on va pas.
D'accord.
Hospitalier pour personnes détenues.
Voilà. D'accord.
L'hôpital en lui-même n'est pas carcéral.
D'accord.
Voilà. Donc, en fait, non, c'est pas toujours une image violente, sinon ce serait beaucoup trop restrictif. Ça peut être un fantasme, ça peut être différentes sortes d'événements intimes. Mais c'est vrai que dans le cas du djihadisme, les images m'ont paru particulièrement importantes, dans la mesure où justement la propagande elle-même était une propagande qui fonctionnait beaucoup avec des images violentes. Et ces images violentes peuvent en effet accrocher chez la personne qui va passer à l'acte plus tard, vont accrocher parfois des images intimes qui sont comme... en fait, je me suis un peu appuyée sur ce que Freud disait sur le mécanisme du rêve aussi. Sont des, par exemple, quand Freud dit que le rêve est formé à partir de ce qu'il appelle des tableaux inconscients, hein, en français, Unbewusstsein en allemand. Donc ces tableaux inconscients qui sont des choses qui viennent de l'enfance, des restes de souvenirs visuels, il dit des restes de souvenirs visuels de l'enfance. Et c'est ça qui, avec les restes d'urne, va fabriquer, et puis des désirs, va fabriquer le rêve comme... quelque chose auquel on croit.
Oui.
C'est ça, c'est la question de la croyance, elle est très liée à l'image.
Mais la question de l'image est importante quand même, Geneviève Morel, au sens où ces images, par exemple Émile Henry qui est hanté par l'image de son père, victime de la commune, enfin condamné après la commune et qu'il cherche en un sens à venger par son acte terroriste, on a un peu l'impression, je ne suis pas psychanalyste, mais je vous pose quand même la question, que si ces images qui sont... qui perturbent, qui ont une emprise sur le sujet, avaient été un peu élaborées, avaient été commentées, discutées. S'il y avait eu un peu de parole autour de ces images, elles seraient moins violentes, elles peut-être pas forcément curables ou entièrement maîtrisables, mais elles feraient moins de prise ensuite au discours violent.
Ça, c'est un peu la question de la prévention que vous posez là. Alors, je crois que la vraie prévention avant tout acte est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir chez
quelqu'un... Il faudrait se moucher avant d'éternuer, c'est quand même pas évident.
Oui, puis ça voudrait dire faire un contrôle de la population qui n'est pas souhaitable. Donc, si vous voulez, il faut différencier, je pense, le suivi après les actes, où on revient, où on prend des sujets et on essaye de parler avec eux de ce qui leur est arrivé. Et puis, bon, le jeune Émile Henry, qui était perdu dans ses rêveries sur son père mort, n'avait pas de raison, a priori,
de
devenir terroriste. Oui,
c'était
pas prévisible.
On ne peut pas toujours prévenir, mais il y a quand même des moments où on peut intervenir, et en tout cas, dans l'après-coup, éviter des répétitions et des reprises. Alors, vous nous avez apporté un morceau de musique pour jalonner cette conversation. Le titre m'a intrigué, mais je le dirai après qu'on l'aura écouté, et vous nous expliquerez pourquoi c'est celui-là que vous avez apporté, comme avec une valise.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, l'inconscient européen, toujours avec vous Geneviève Morel, autour de votre livre Terroriste, au pluriel, les raisons intimes d'un fléau global, autour de ces cas individuels, de sujets qui sont devenus terroristes dans l'histoire de l'Europe et des États-Unis aussi, dans votre livre, tout au long du XXe siècle. Vous avez choisi d'apporter ce morceau de musique intitulé Valise, par un chanteur ou un groupe qui s'appelle Albé. Est-ce qu'il y avait une raison, Geneviève Morel?
J'ai choisi cette chanson-là parce que c'était le mot... Bon, valise, ça m'évoquait quand même justement
Ça peut contenir des bombes aussi.
Les départs.
Ah, chacun son association, Geneviève Morel. C'est, encore une fois, on parle de psychanalyse.
Puis bon, je dis les mots
valises. Parler du départ, c'est drôle. Moi, j'y associe, comme on parle du terrorisme, aussi une valise qui peut contenir des bombes.
Enfin, là, c'est une histoire de séparation, de départ, de rencontre qui se fait ou qui se fait pas. Voilà. Et donc, ça m'a un peu évoqué, en effet, le djihadisme, tout ce qui peut se passer.
J'ai entendu aussi dans la chanson l'histoire d'un temps qui ne passe pas, de choses qui ne passent pas. On dit que l'inconscient ne connaît pas le temps. Vous essayez de comprendre les actes terroristes au cours du XXe siècle, et certains sujets, Geneviève Morel, à travers quand même la psychanalyse, à travers l'inconscient. Et vous dites que c'est dans l'inconscient individuel toujours que vient se greffer l'idéologie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, l'exemple qui vous a le plus frappé peut-être dans votre livre, qui consiste de récits individuels, écrits d'une façon extrêmement claire, presque transparente, lumineuse, qui nous ouvre des abîmes, mais de manière extrêmement, extrêmement claire. Est-ce que vous pouvez nous en résumer un?
L'autobiographie de David Valla, par exemple, qui est associé à, qui est allé en prison pour complicité d'entreprise terroriste, enfin, je ne sais pas exactement le chef d'accusation, dans les années 95, donc il faisait partie du GIA, du groupe islamique armé. Et en fait, lui, donc, il raconte dans son livre, c'est assez intéressant parce que ça va répondre à la question sur l'image aussi.
Dont on parlait tout à l'heure.
Donc lui, en fait, il dit que quand il avait 15 ans, il avait nuit et brouillard, que ça l'a absolument frappé, qu'il a fait des cauchemars quand même avec les visages des enfants. Mmh. Voilà. Donc, parallèlement à ça, il se convertit à un moment donné. Il est dans un milieu où il fréquente beaucoup de maghrébins, lui-même ne l'étant pas.
Il a un père absent, si je me souviens bien.
Il n'a pas de père et sa mère ne lui dit pas qui est son père. Et donc, il va se convertir, etc. Puis au moment de la guerre de Bosnie, au moment où il y a ces questions européennes, justement. On lui montre donc à la mosquée la propagande avec des visages d'enfants bosniaques, puisqu'à l'époque, c'était pas les enfants syriens, c'était les enfants bosniaques. Et là, donc, il dit que ça lui fait une sorte de tilt.
Il y a un télescopage entre deux images.
Nuit et brouillard, il le dit exactement comme ça, entre les images du film Nuit et brouillard et ces images-là. Et donc, moi, ce que j'ai reconstruit dans son parcours, que lui n'est pas, c'est une malecture, c'est pas ce qu'il dit lui. Mais donc après, il va partir en Bosnie, etc. Et puis bon, après en Afghanistan. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que d'une part, on voit bien qu'il fabrique une sorte de fantasme. Un enfant est martyrisé dans tout ça, qui s'identifie lui-même à cet enfant, enfin d'une certaine façon. Après, avec le martyr aussi, l'aspiration au martyr. Et puis après, il va aller en prison. Les événements passent, il va aller en prison. Il n'a pas commis d'actes, semble-t-il, graves, mais enfin, bon, il a été impliqué dans une mouvance.
Il s'est arrêté au bord de.
Oui, il s'est arrêté
de
au
certains
bord.
Actes. Oui. Quand il comprend qu'il s'agissait aussi de tuer des civils, justement. Voilà. Alors, en ce sens, il est très proche du texte de la pièce de théâtre d'Albert Camus, Justes, où on est dans une guerre et pas encore dans l'assassinat d'innocents, qui caractérise quand même le terrorisme en général.
Voilà. Et donc, quand il est en prison, sa mère, finalement, lui révèle que son père était... que s'il s'appelle David, qui est un prénom juif, c'est parce que son père, en fait, était un italo-juif. Or, elle-même, elle lui avait bâti une sorte de rapport idéal avec son propre père à elle, qui était un communiste fervent. Donc, il avait un idéal pour ce grand-père maternel, mais il ne savait rien sur son père. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez frappant, justement, que ce fantasme, un enfant, est martyrisé, et cette image de nuit et brouillard viennent sur ce vide, de ce silence de la mer, mais où il y avait quand même des indices, ne serait-ce que le prénom, et puis peut-être d'autres choses qui passaient, et au fond, qui montraient cette espèce d'image, qui fabrique cette image qu'il a en lui, qui va répondre, qui va faire que la propagande va le harponner en ce point, et qui va croire à la propagande, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le transfert de conviction, parce que nos images intimes, nous y croyons dur comme fer. Et donc, il y a un transfert de conviction sur ces images externes pour lesquelles nous n'avons, au fond, pas d'autres preuves que ces images-là en elles-mêmes, mais nous allons y croire pareil.
Alors donc, il y a cette image intime, jamais verbalisée, mais que d'abord Nuit et brouillard vient intensifier finalement, une sorte de rapport à l'enfance personnelle qui vient tout à coup trouver une image de substitution terrifiante. Et puis ensuite, le discours djihadiste déjà à l'époque, enfin une guerre de religion, disons, qui vient se greffer. Et c'est ça le cocktail, disons, Geneviève Morel. Et alors, quel est le but de remonter à ces analyses, de faire cette anamnèse, comme fait la psychanalyse, mais dans ce cas précis des actes terroristes, quel est le but que l'on cherche quand on lit ces autobiographies, quand on suit ces sujets?
Bah, moi, je pense qu'on pourrait tout à fait envisager, si vous voulez, c'est évident qu'il y a, quand vous parlez avec des personnes qui, particulièrement quand elles vont passer en procès, elles sont assez, elles ont du mal à parler, voilà. Donc, si on les interroge d'une manière, effectivement, comme si on était au tribunal, vous voyez, si on les interroge de cette façon, ils vont se taire. C'est clair. Bon. Moi, c'est vrai que je les rencontre dans un contexte hospitalier.
Il faut d'autres contextes
de parole. Bon, moi, je les rencontre dans un contexte hospitalier où les personnes ont envie de parler. Voilà. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que même quand c'était justement des djihadistes qui étaient réticents à dire quoi que ce
soit... Leur subjectivité.
Non, ils sont réticents à parler des faits et ils sont réticents à parler des projets. Dès qu'on prononce des mots comme ça, terminé. En revanche, si on les interroge sur leur enfance, si on les fait parler de leur enfance, de tout ça, ils sont très contents d'en parler parce qu'ils souffrent quand même. Donc, ils sont très contents de parler de tout ça et puis ça ne leur paraît pas dangereux. Voilà. Et donc, je pense que par ce biais, on peut tout à fait arriver à obtenir d'eux qu'ils reviennent, que ça, une fois que la parole se libère un peu par ce biais, de revenir sur tout ce passé et qu'eux-mêmes puissent avoir accès à ce qui les a comme ça accrochés à l'engagement terroriste, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, en fait, vous voyez.
Bien
et
sûr,
du coup, ils répètent toujours le même discours.
Il y a un mystère pour eux-mêmes dans leurs propres actes. Alors, il y a une chose sur laquelle vous, là aussi, vous êtes très claire et très profonde, à mon avis, et pas du tout dans le déni. D'ailleurs, un psychanalyste qui serait dans le déni, ce serait quand même embêtant, mais c'est la question de la mort, Geneviève Morel. Donc, vous expliquez très clairement, de même qu'il y a l'image violente individuelle et puis ensuite le passage à l'acte. Vous expliquez très clairement que dans ces actes que vous étudiez, il y a véritablement l'intention de tuer, de donner la mort, et en même temps le déni de sa propre mort. C'est-à-dire le sujet n'arrive pas à croire que lui-même va mourir, même s'il est martyr, il y a toujours un déni de sa mort. Mais par contre, il y a vraiment une volonté de tuer. Il y a une volonté quand même, alors est-ce qu'il faut la dire seulement psychique, psychologique, toujours articulée à des motifs politiques, de tuer, de détruire, et aussi de se venger de la société en général. Il y a un individu, mais en face, il y a la société et le meurtre.
Oui, c'est-à-dire que, vous savez, il y a eu toute une discussion pour savoir si c'était des suicides indirects ou bien des meurtres. Si c'était des,
voilà.
Bon, il y a des études qui ont été faites, une étude célèbre de Robert Papp, un sociologue, politologue américain, mais qui a arrêté son étude en 2001, je crois, sur qui s'appelle comment ça s'appelle, tuer pour gagner. Donc c'est l'idée qu'au fond, ce sont des meurtres altruistes. Voilà.
Une recherche du salut ou de, en tout
oui,
cas.
Oui, parce qu'il a étudié des kamikazes qui faisaient ça pour des luttes de libération nationale. Et puis bon, si vous voulez, là, il y a des contextes différents, il y a aussi des masses critiques différentes. Le nombre d'individus joue aussi, tout ça. Mais moi, ce qui m'a semblé, si vous voulez, c'est que le meurtre venait avant le suicide.
Voilà.
Bon, bien sûr, il faut accepter de mourir à certains moments, bon, mais c'est pas ça le but premier.
Mais même là, quand vous dites bien sûr il faut accepter de mourir, vous montrez dans votre livre Geneviève Morel qu'en fait il y a très souvent le déni de cela. Enfin, on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas, comme dit Freud.
Oui, alors chez les terroristes non djihadistes, si vous voulez, il faut distinguer là quand même
après,
la part de la religion et
les croyances.
Voilà, les croyances sont différentes. Chez les gens d'extrême gauche, par exemple, il n'y avait pas du tout de désir kamikaze, sauf chez certains, mais c'était vraiment des choses inconscientes. C'était pas en tout cas conscientisé comme tel. Et donc il y avait un déni souvent. Je le montre sur le cas de Cathy Wilkerson, un déni total du fait que les bombes pouvaient exploser, en presque. C'était vraiment
Elle fabriquait, alors elle, une terroriste américaine.
Oui, terroriste américaine des années 70, qui a réussi à faire ça.
Sous-sol de la maison de son père, voilà. Elle fabriquait des bombes avec ses amis, et une d'elles a explosé.
Par accident, presque, on pourrait dire, elle-même dit presque heureusement, puisqu'elle devait tuer un nombre de civils assez important, ou de jeunes militaires, je ne sais plus, enfin en tout cas, beaucoup de monde. Et elle, elle était effectivement dans le déni du fait que ça pouvait, que ce genre d'accident pouvait arriver. Mais moi, je dis que ce genre de déni, il y a aussi un déni par la croyance au paradis. La croyance au paradis est une forme de déni.
Produit ce déni, par sa fonction.
Mais elle a quand même une fonction aussi. C'est, comme l'a dit, je me suis appuyé aussi sur un philosophe israélien qui s'appelle Moshe Albertal, qui fait un livre qui s'appelle « Du sacrifice ». Qui est traduit en français d'ailleurs, et dans ce livre il explique qu'au fond il y a que finalement la perspective du sacrifice de soi sanctifie le meurtre, mmh. Vous voyez, et le permet, c'est-à-dire que du fait qu'on accepte son propre sacrifice, eh bien ça permet de tuer, et ça ça permet de tuer, ça glorifie le meurtre et ça glorifie l'ego, c'est-à-dire la personne qui fait le meurtre, d'où une certaine d'où la différence quand même entre le fait qu'on soit dans le djihadisme et le fait qu'on soit dans d'autres sortes de terrorisme.
Et cette volonté de meurtre, Geneviève Morel, est-ce qu'elle n'est pas quelque chose aussi qui permet l'accroche aux politiques, qui permet la greffe avec l'idéologique, au sens où vous montrez quand même dans de nombreux cas que cette volonté de meurtre, elle est liée à une histoire individuelle qui elle-même rejoint souvent une histoire sociale, une histoire d'enfants abandonnés, soit d'injustice transmise comme un traumatisme. D'où vient cette volonté de meurtre,
oui,
qui est souvent aussi
forcément
une volonté de vengeance sociale?
Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément des choses que vous-même vous objectiveriez comme devant nécessitant une vengeance absolument. Par exemple, le cas de Cathy Wilkerson dont on en parlait, elle est élevée dans une famille quaker, elle considère qu'elle est l'objet d'injustice de la part de ses parents, mais enfin, elle est très bien élevée, enfin, ça n'a rien à voir.
Plutôt dans un milieu privilégié.
Elle est plutôt dans un milieu privilégié, complètement. Elle fait des études, etc. Mm-hmm. Bon, maintenant, elle a l'impression comme fille, elle est...
Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même pardon de vous interrompre, les cas que vous étudiez, cette idée chez ces gens que la société est injuste en général, d'une injustice globalisée, structurelle?
Ah ben oui, mais ça, c'est sûr que ça fait partie de l'idéologie quand même. C'est-à-dire, là justement, on passe d'un sentiment personnel, voilà, à quelque chose que l'idéologie, bien sûr. Sinon, il ne serait pas terroriste. C'est quand même pris dans un mouvement politique, toujours. Hein.
Voilà. Et ça permet l'idéologie qui se greffe avec ce sentiment, ouais, personnel. C'est, ouais, des éléments du cocktail.
Voilà, c'est des éléments du cocktail. On le voit très bien dans le cas de Luigi Lucchini, par exemple, qui a été abandonné à la naissance.
L'assassin de Sissi, lui.
L'assassin de Sissi, d'Elisabeth d'Autriche, dite Sissi. Et lui, donc, il dit, il a une phrase, il dit qu'il venge sa vie, et il dit que... il dit ça au moment où il passe au tribunal.
J'avais noté cette phrase qui m'a beaucoup frappé.
Il venge sa vie, mais quand il explique ça, il explique que, parce que quand on lui dit pourquoi est-ce que vous avez tué Sissi, alors il a tué Sissi parce qu'il voulait tuer, il dit, un premier. Et donc il dit, comme j'étais le premier en injustice, ce qui veut dire j'étais le premier à avoir subi une injustice, c'est-à-dire c'est moi qui ai subi le plus d'injustice, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, eh bien je devais agir en premier, c'est ça qu'il appelle à un moment donné, et tuer un premier.
Le plus privilégié,
et tuer un premier.
Le plus ouais, méprisé doit tuer le plus privilégié.
Oui, et en premier, c'est-à-dire il est appelé en premier à le faire. Donc il y avait trois sens du mot premier, comme ça, dans sa phrase, et c'est assez intéressant bon, c'est un cas de vengeance. Alors, dans le cas d'Émile Henry, il y a bien sûr le venger le père, ça c'est clair, mais... Et alors après, ça se greffe évidemment sur des revendications politiques, bien sûr.
Et alors, Geneviève Morel, donc vous pratiquez la psychanalyse et vous avez suivi certains des cas dont vous parlez dans un hôpital. Et vous dites très clairement que l'approche dont vous parlez est à la fois nécessaire, vitale, si on veut comprendre ce dont il s'agit, qu'en même temps, elle est forcément longue. Elle prend du temps, il faut suivre très longtemps les gens pour comprendre, faire accéder à cette parole. Vous dites que la prévention est difficile parce qu'on ne peut pas savoir, pas prévoir toujours les passages à l'acte. Quels sont les espaces sociaux, les points d'accroche pour que ça devienne, j'allais dire, efficace dans nos sociétés aujourd'hui qui sont sous pression terroriste?
Déjà, il y a énormément d'individus qui sont en prison. Et qui vont rester un certain temps en prison. Et donc, je pense qu'ils ont tout à fait le temps de faire ce genre de travail psychothérapeutique. Ça me paraît tout à fait possible. Voilà, c'est pas utopique
de penser.
Et
c'est utile, non pas pour eux, comme pourrait dire une certaine idéologie en disant « En plus, on va les soigner », mais c'est utile pour eux, pourquoi pas, mais aussi pour comprendre et puis pour agir.
Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas leur présenter les choses de manière utilitariste. Il faut effectivement... D'ailleurs, ça fait partie ça fait partie de la... Ils sont punis, si vous voulez, la prison est une punition, mais ils ont le droit d'être soignés et de parler. Et de... Voilà, donc je pense qu'on peut tout à fait...
Quand je disais utile, je pensais plus à la société, pour nous, oui, pour nous citoyens.
Et puis surtout, ils vont sortir. Si vous voulez, il n'y a plus maintenant... les personnes sortent de prison. Donc, il y a énormément de... il y a beaucoup de personnes en prison qui sont pas forcément des terroristes, mais des personnes qui ont été arrêtées pour droit commun, des condamnées pour droit commun, qui se sont, radicalisées en prison, même si je n'aime pas ce terme. Voilà.
Oui, vous critiquez ce terme, c'est-à-dire qui oriente uniquement vers ou bien le social ou bien l'idéologique, mais jamais vers l'intime et le psychique.
Non, mais surtout qui fait croire que les individus sont passifs.
C'est ça.
Et qu'en plus, comme on les radicalise, comme on les a radicalisés, on va les déradicaliser par une sorte de contre-discours. C'est-à-dire, ils ont eu un discours, on va leur donner un contre-discours, comme si c'était une cire qu'on... On met une empreinte et on l'enlève après. Vous voyez, je crois que ça, c'est un modèle qui est faux.
Et alors, Geneviève Morel, il y a un grand courage de la psychanalyse, surtout dans cette clarté d'aller affronter ces enjeux. Est-ce que vous pensez que nos sociétés en Europe, qui sont hantées quand même par le terrorisme, qui y répondent forcément d'une manière aussi sécuritaire et militaire, et par des lois, est-ce qu'elles sont capables aussi d'écouter cette démarche, de revenir aussi à, je dirais, la lecture, la littérature, l'écoute, la parole? Est-ce que nos sociétés sont encore capables en Europe d'affronter ces dimensions?
Moi, je l'espère. Ça me paraît même vital qu'elles le fassent, parce que sinon, je ne vois aucune...
Comment en sortir, comme vous dites?
Oui, voilà, comment en sortir, parce que si vous voulez, ça va forcément se reproduire. On voit bien qu'il y a des vagues terroristes régulières, donc il n'y a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont actuellement en prison et qu'il faut bien il faut qu'elles reviennent sur ce qu'elles ont fait, ou du moins qu'on leur donne la possibilité de le faire. Après, il y aura toujours des personnes qui vont refuser, certainement, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, moi ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je n'ai pas fait de suivi régulier, puisque la structure dans laquelle je les ai rencontrés ne s'y prête pas, puisque ils étaient hospitalisés pour quelque temps, après ils retournent en prison, mais il y a des personnes en prison qui peuvent tout à fait faire ça. Voilà.
Et vous vous adressez aussi, bien sûr, à travers ce livre, vous vous adressez aussi aux lecteurs, aux citoyens en général, chez qui ces actes peuvent éveiller aussi des images violentes. Enfin, il y a toujours cette idée de contagion, et même si ce n'est pas la contagion terroriste, en tout cas de contagion de la peur, du traumatisme. Vous employez très peu le mot traumatisme, d'ailleurs. En tout cas, de contagion chez tout un chacun, et votre livre est aussi une manière de dire « parlons-en ».
Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, la contagion, enfin, de toute façon, c'est tout les médias mettent sur la table tout ce qui se passe. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de s'intéresser aux personnes qui ont commis les actes pourrait...
Les médias ne mettent pas tout sur la table. S'il n'y a pas les psychanalystes, ce que vous dites, ce n'est pas tellement sur la table.
Non, ça, c'est vrai. Non, pas du tout. Non, ça va plutôt à contre-courant, je pense. Mais disons, ils mettent beaucoup de faits sur la table, beaucoup d'images, beaucoup de choses. Et donc, je pense que ça ne va pas augmenter la contagion de s'intéresser
au contraire, je pense que vous luttez contre la contagion, c'est
voilà,
ça que j'essayais de dire.
Exactement, oui, c'est ça. C'est
C'est-à-dire que la contagion des images, vous luttez à travers la parole contre la contagion des images.
Et puis comme
images.
Vous l'avez dit au début de l'émission, ça c'est très vrai, c'est que il y a chez les criminels, il y a, ça avait été noté par quelqu'un au début, qui avait écrit un psychiatre, Hesse, qui avait écrit un livre sur le fait que les criminels ont envie d'écrire sur eux-mêmes. Et je pense qu'on pourrait tout à fait, à l'âge du blog... exploiter aussi ça, si vous voulez. Bon, alors peut-être tout le monde n'a pas envie d'écrire, mais en tout cas, comme tout le monde n'est pas comme Émile Henry prêt à écrire, ou Luigi Lucchini qui a appris le français pour écrire ses mémoires en français.
Ça le travaillait quand même.
Ça le travaillait quand même, oui. Il avait envie de transmettre quelque chose. Mais je pense que par la parole, en tout cas, c'est quand même tout à fait possible. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est faisable.
Voilà. Donc on peut encore avoir confiance dans la parole, Geneviève Morel.
Oui, absolument.
Voilà. Merci beaucoup de nous la rendre, cette confiance.
Merci, Frédéric Vance.
Matière à penser, c'était notre deuxième rencontre autour de l'inconscient européen avec Geneviève Morel, autour des terroristes, et grâce à Peyre Legras, Marie Le Peintre, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Lino Lima, et c'était Frédéric Worms qui vous donne rendez-vous demain pour parler de l'inconscient européen à travers la poésie.